Tragique rentrée. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Bacaillé, dépêtré de ses liens, les fesses en sang, la face congestionnée, les yeux révulsés d'horreur, reçut en pleine figure les paquets malodorants qu'étaient ses habits. Cependant que toute l'armée, suivant ses chefs, l'abandonnait à son sort et quittait dignement la cabane pour aller un peu plus loin, dans un endroit désert et caché, se concerter sur ce qu'il convenait de faire en si pressante et pénible occurrence. Pas un ne se demandait ce qu'il allait advenir du traître démasqué, châtié, fessé, déshonoré, empuanti. Ça, c'était son affaire. Il n'avait que ce qu'il méritait, et tout juste encore. Des râles et des hoquets de rage, des sanglots d'un homme qu'on assassine parvenaient bien jusqu'à leurs oreilles, ils ne s'en soucièrent point. Bientôt, par degrés, l'autre reprenant conscience et se sauvant à toute allure, les sanglots et les cris et les hurlements diminuèrent et l'on n'entendit plus rien. Alors le braque commanda. « Il faut aller prendre à la cabane tout ce qui peut servir encore et aller le cacher ailleurs en attendant. » À 200 mètres de là, dans le taillis, une petite excavation insuffisante pour remplacer celle que l'on venait de perdre par le crime de Bacaillé pouvait, faute de mieux, abriter momentanément les débris de ce qui avait été le palais de gloire de l'armée de Longeverne. « Il faut tout apporter ici, » décida-t-il. Et immédiatement, la majeure partie de la troupe s'occupa à ce travail. « Fichez aussi le mur en bas, » compléta-t-il. « Enlevez le toit et murez la provision de bois. Il faut qu'on ne voie plus rien de rien. » Les ordres étant donnés, pendant que les soldats vaquaient à ces corvées réglementaires et pressées, il conféra avec les autres chefs. Camus, Lacrique, Tintin, Boulot, Grangibus et Gambette. Ce fut une conférence longue et mystérieuse. L'avenir et le présent y furent confrontés au passé, non sans regret et sans plainte, et surtout l'on agita la question de reconquérir le trésor. Ce trésor était sûrement dans la cabane des Vélerans, et la cabane était dans le bois. Mais comment le trouver, et surtout, quand pourrait-on le chercher ? Il n'y avait que Gambette, habitant sur la côte, et quelquefois Grangibus, occupé au moulin, qui pouvait invoquer des motifs plausibles d'absence sans courir le risque d'un contrôle immédiat et sérieux. Gambette n'hésita pas. « Je guetterai l'école tant qu'il faudra. Je battrai le bois en long, en large, en travers, en haut. J'en laisserai pas un pouce d'inexploré, tant que j'aurai pas démoli leur cabane et repris notre sac. » Grangibus déclara que, toutes les fois qu'il pourrait se joindre à lui, il le trouverait à la carrière à Pépio, une demi-heure environ avant l'entrée en classe. Dès que la traque de Gambette aurait abouti et qu'on aurait reconquis le trésor, on rebâtirait la cabane sur un emplacement qu'on déterminerait plus tard, après les recherches les plus précieuses. Pour l'heure, on se contenterait de protéger jusqu'au contour des Ménelots et à la marnière de Jean-Baptiste le retour au Vernois des Gibus. Le transport des matériaux était achevé. Les guerriers vinrent se grouper autour des chefs. Le braque, au nom du conseil, annonça gravement que la guerre à la Saute était suspendue jusqu'à une date prochaine qu'on fixerait de façon précise dès qu'on aurait retrouvé ce qu'il fallait. Le conseil, prudent, gardait en effet pour lui le secret de ses grandes décisions. On effaça aussi bien que possible les traces qui menaient de l'ancienne cabane à la nouvelle réserve. Après quoi, le soleil baissant, on se résolut à regagner le village sans se douter qu'à 7 heures, il était en pleine révolution. Les conscrits qui jouaient aux quilles, les hommes qui buvaient leur litre à l'auberge de Fricot, les commères allant faire la causette avec la voisine, les grandes filles s'exerçant à la broderie ou au crochet derrière les rideaux de la fenêtre, toute la population de Longeverne, se récréant ou se reposant, fut tout d'un coup attirée, aspirée devrait-on dire, au milieu de la rue, par des cris épouvantables, par des râles qui n'avaient plus rien d'humain, d'un malheureux qui est à bout, qui va tomber, rendre l'âme, et chacun, les yeux arrondis d'angoisse, se demandait ce qu'il y avait. Et voilà que l'on vit surgir du trage des cheminées, bancalant plus que jamais et courant, et hurlant autant qu'on peut hurler, Bacaillé tout nu ou presque, car il n'avait sur son dos que sa chemise et aux pieds des souliers sans cordon. Il tenait sur ses bras 2 paquets d'habits, et il sentait, il empoisonnait plus que 36 charognes en train de pourrir. Les premiers qui accoururent à sa rencontre reculèrent en se bouchant le nez. Puis, un peu aguerris, se rapprochèrent tout de même, complètement ahuris, interrogeant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Bakaye avait les fesses rouges de sang. Des rigoles de crachats lui descendaient le long des cuisses. Ses yeux chavirés n'avaient plus de larmes. Ses cheveux étaient tout droits et agglutinés comme les poils d'un hérisson. Et il tremblait comme une feuille morte qui va se détacher de son rameau et s'envoler au vent. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Bakaye ne pouvait rien dire. Il loquetait, râlait, se tordait, hochait la tête, se laissait aller. Son père et sa mère, accourus, l'emportèrent à la maison à demi évanouie, cependant que tout le village intrigué les suivait. On pansa les fesses de Bakaye, on le débarbouilla. On mit tremper ses habits dans une seille à la remise. On le coucha. On lui chauffa des briques, des cruchons, des bouillottes. On lui fit boire du thé, du café, des grogs et, toujours hoquetant, il se calma un peu et baissa les paupières. Un quart d'heure après, un peu remis, il rouvrait les yeux et racontait à ses parents, ainsi qu'aux nombreuses femmes qui entouraient sa couche, tout ce qui venait de se passer à la cabane, en omettant toutefois soigneusement de spécifier les motifs qui lui avaient valu ce traitement barbare, c'est-à-dire sa trahison. Il dit tout le reste. Il vendit tous les secrets de l'armée de Longeverne. Il narra les escapades à la saute et les batailles. Il confessa les boutons chipés et la contribution de guerre. Il dévoila tous les trucs de Lebrac, dénonça tous ses conseils. Il chargea Camus autant qu'il put. Il dit les planches dérobées, les clous soustraits, les outils empruntés, et la noce, la goutte, le vin, les pommes et le sucre volé, les chants obscènes, la dégueulade au retour, et les farces à Bédouin, et le culottage de Saint-Joseph avec les dépouilles de l'Aztèque Dégué, tout, tout, tout. Il se dégonfla, se vida, se vengea, et s'endormit là-dessus avec la fièvre et le cauchemar. Marchant sur la pointe des pieds, une par une ou par petits groupes, s'arrêtant de temps à autre pour jeter un coup d'œil sur l'intéressant malade, les visiteuses se retirèrent. Mais elles s'attendirent au seuil de la porte, et toutes réunies conférèrent, s'animèrent, s'excitèrent, se montèrent jusqu'à la fureur folle. Œufs volés, boutons raflés, clous chipés, sans compter ce qu'on ne savait pas, et bientôt pas un chat dans le village, si toutefois ces gracieux animaux eurent le mauvais goût de prêter l'oreille au discours de leur patronne, n'ignora un mot de la terrible affaire. Les gredins, les gouillants, les guapes, les voyous, les saligots. Attendez un peu qu'il rentre, je vais le soigner. Je vais lui servir quelque chose aussi au nôtre, le mien. Si c'est permis, des gamins de leur âge. Il n'y a plus d'enfants, voyez-vous. Moi, c'est son père qui va lui en foutre. Attendez seulement qu'il revienne. Le fait est qu'il ne paraissait point autrement pressé de rentrer, les gars de Longeverne. Et il aurait été bien moins encore s'ils avaient pu se douter de l'état de surexcitation dans lequel le retour et les révélations de Bakaye avaient mis les auteurs de leur jour. Vous ne les avez pas encore revus ? Non, quelles sottises peuvent-ils bien être encore en train de faire ? Les pères venaient de rentrer pour arranger les bêtes, leur donner à manger, les mener boire et renouveler la litière. Ils criaient moins que leur épouse, mais ils avaient les traits crispés et durcis. Le père Bakaye avait parlé de maladie, procès, dommages et intérêts, et dame, quand il était question de leur faire desserrer les cordons de la bourse, cela n'allait point. Aussi promettait-il intérieurement, et même à haute voix, de fabuleuses raclées à leurs rejetons. « Les voici !» annonça la mère Camus, du haut de sa levée de grange, la main en abat-jour sur les yeux. Et en effet, presque aussitôt, se poursuivant et discutant comme à l'ordinaire, les gamins du village apparurent dans le chemin près de la fontaine. « File chez nous tout de suite !» commanda sèchement à son fils, le père Tintin, qui abreuvait ses bêtes. « Le braque !» ajouta-t-il. « Et toi aussi, Camus, il y a ton père qui t'a déjà appelé trois fois. »« Eh ben, on y va alors !» répondirent nonchalamment les deux chefs. Et bientôt, de tous les coins, sur tous les seuils, on vit surgir des mamans ou des papas hélant à haute voix leur fils et le priant de rentrer immédiatement. Les gibus et gambettes, presque instantanément abandonnés, se résolurent, puisqu'il en était ainsi, à regagner également leur domicile respectif. Mais gambettes, en montant la côte, et les gibus, la dernière bicoque dépassée, s'arrêtèrent court. De toutes les maisons du village, des cris, des hurlements, des vociférations, des râles, mêlés à des coups de pied claquants, à des coups de poing sonnants, à des tonnerres de chaises et de meubles s'écroulant, se marier à des jappements épouvantés de chiens se sauvant, de chats faisant claquer les chatières par le plus effroyable charivari qu'oreille humaine pût rêver. On eût dit que partout à la fois on s'égorgeait. Gambette, le cœur serré, immobile, écoutait. C'était bien les voix de ses amis. C'étaient les rugissements de Lebrac, les cris de putois de la crique, les meuglements de Camus, les hurlements de Tintin, les piaillements de Boulot, les pleurs des autres et leurs grincements de dents. On les battait, on les rossait, on les étriait, on les assommait. Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Et il revint par derrière, à travers les vergers, n'osant repasser devant chez Léon, le buraliste, où quelques célibataires endurcis, fumant leurs bouffardes, jugeaient des coups d'après les cris et discutaient avec ironie sur la vigueur comparée des poignes paternelles. Il aperçut les deux gibus s'arrêter eux aussi, comme des lièvres qui écoutent la chasse, l'œil rond et les cheveux hérissés. « Entends-tu? Entendez-vous? Il les éreinte! Pourquoi ?»« Bacaillé !» fit Grand Gibus. « C'est à cause de Bacaillé, je parierai. Oui, il est rentré tout à l'heure au village, peut-être tel qu'on l'avait laissé, avec ses habits pleins de merde, et il a dû recafarder. Peut-être qu'il a tout raconté, le salaud. Alors nous aussi, quand les vieux le sauront, on va recevoir la danse. S'il n'a pas dit nos noms et qu'on en parle chez nous, on dira qu'on n'y était pas. Écoute! Écoute !» Une bordée de sanglots et de râles et de cris et d'injures et de menaces s'évadait de chaque maison, montait, se mêlait, emplissait la rue pour une effarante cacophonie, un sabbat infernal, un vrai concert de damnés. Toute l'armée de Longeverne, du général au plus humble soldat, du plus grand au plus petit, du plus malin au moins dégourdi, tous recevaient la pile, et les paternels y allaient sans se retenir, la question d'argent ayant été évoquée, à grands coups de poing et de pied, de souliers et de sabots, de martinets et de triques. Et les mères s'en mêlaient, elles aussi, farouches, impitoyables, sur les questions de gros sous. Tandis que les sœurs, navrées un peu complices, pleuraient, se lamentaient et suppliaient qu'on ne tuât pas pour si peu leur pauvre petit frère. La Marie Tintin voulut intervenir directement. Elle reçut de sa mère une paire de gifles lancées à toute volée avec cette menace. « Toi, petite garce, mêle-toi de ce qui te regarde, et que j'entende encore dire par les voisines que tu fricotes avec ce jeune gouillant de Lebrac. Je veux t'apprendre ce qui est de ton âge. » La Marie voulut lui répliquer. Une nouvelle paire de claques du père lui en coupa l'envie, et elle s'en fut pleurer silencieusement dans un coin. Et Gambette et les Gibus épouvantés s'en furent aussi, chacun de leur côté, après avoir convenu que Grand Gibus irait en classe le lendemain matin pour avoir des renseignements sur ce qui s'était passé, et qu'il accompagnerait le mardi Gambette à la saute dans sa recherche de la cabane des Vélerans pour lui raconter comment tout ça avait tourné.